La semaine dernière, avec Chloé Zandervost, on parlait des discussions mi-chaudes, mi-froides entourant le sujet de l'IA lors de l'événement américain South by Southwest. Et je me suis dit que j'allais revenir sur le sujet cette semaine avec quelqu'un qui était justement pour parler du sujet lors de cette rencontre et qui en a profité pour prendre le pouls sur place des participants. On va aller rejoindre de retour à Montréal le vice-président développement, stratégie et innovation chez les Sept Doigts et aussi co-président du regroupement Entertain AI. Bonjour Alexandre.
Salut Bruno.
Alexandre, la semaine passée avec Chloé Zandervost, on a fait un clin d'œil aux discussions entourant l'intelligence artificielle qui sont passées au South by Southwest. Un sujet qui a fait réagir les participants, mais je me dis qu'il n'y a rien comme parler à quelqu'un qui était là, puis encore plus qu'a fait une présentation. Alors, j'étais curieux de t'entendre sur le sujet. D'abord, comment ça a été ta présentation?
Écoute, c'était super bien reçu, c'était sale comble. J'avais été invité par les collègues Dutch, donc des Pays-Bas. Ouais. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais ils ont un écosystème techno-créatif fantastique. Et aussi, et là, on est un peu jaloux quand on regarde l'autre côté de l'Atlantique, ils viennent d'annoncer 200 millions d'euros dédiés aux expériences immersives. Et on ne parle pas d'investissement, on parle de subventions.
Donc, mais attends, ça, c'est pour les Pays-Bas uniquement ou pour l'Europe?
Uniquement pour les Pays-Bas. C'est-à-dire, c'est presque c'est 10 fois plus, quand tu compares avec la population légale, 10 fois plus que ce qu'on a, nous, dédié sur 3 ans ici au Québec.
Et est-ce que tu sais quelle est l'intention du gouvernement d'investir autant?
Oui, ils ont eu un wake-up call il y a peut-être 2 ans sur l'impact potentiel que pourraient avoir les technologies immersives. On parle de XR beaucoup, on parle de VR, de réalité augmentée. Et à tout niveau de la vie quotidienne des Hollandais et aussi, bien sûr, dans la créativité. Donc, ce n'est pas juste pour les industries créatives, ce 200 millions-là, c'est pour tout. C'est le transport, c'est la gestion des villes, c'est health and safety, c'est beaucoup d'autres domaines. Et il y a ce genre de travaux qui est en train de se faire. Je fais partie de ce comité-là où on va faire notre recommandation pour un plan national pour la XR au Québec, au gouvernement Legault. Et on espère peut-être aller chercher le même genre d'éveil que les Dutch ont réussi à faire avec leur gouvernement.
En tout cas, bonne chance, parce que si on suit au dernier budget, l'argent se fait rare au Québec, particulièrement dans le domaine de la culture. Mais bon.
C'est vrai, mais notre angle, c'est Bruno, c'est pas seulement la culture, c'est pas de la charité, déjà de un, de deux, c'est un moteur de développement économique. Et quand on parle de XR, c'est l'accélérateur pour tellement d'industries critiques qu'on a au Québec, l'éducation, la santé, le développement industriel et la culture, évidemment, mais ce n'est pas ça le moteur unique de notre action.
Mais juste pour rassurer les gens qui nous écoutent, tu ne dis pas que financer la culture, c'est de la charité. Là.
Absolument.
OK. Merci.
C'est exactement le contraire.
Oui, je voulais juste être sûr que personne ne te prenne tes propos hors sujet. Mais donc, je reviens à ta présentation. Tu as été invité, oui. Tu as fait une présentation. C'était sur quoi?
Écoute, c'était sur ce thème quand même. Ils étaient très focusés sur le potentiel des expériences immersives. Et tu sais que nous, au Sept Doigts, on a bâti un laboratoire de R&D appliqué, de prototypage dans les dernières années qui a vraiment permis à la compagnie de faire un pivot vers la technologie, donc au service des arts de la scène. Et de ça est sorti un projet clé magnifique où on a gagné des prix à l'international et au Québec d'innovation, qui était en fait notre projet où on fait un spectacle en vivant, comme tu peux le voir sur une scène normale, et en même temps, on capte la performance de nos acteurs, de nos acrobates, et on les met dans un monde virtuel en temps réel. Et ça, c'est une première mondiale, avec un niveau de difficulté technologique et narrative jamais atteint jusqu'à là. Et ça, ils étaient très curieux d'en entendre plus parler de cette expérience-là parce que ça intrigue et ça fascine beaucoup de collègues dans le milieu créatif à travers le monde.
C'est drôle, hein? Je profite que tu mentionnes ça pour te poser la question parce que quand j'ai vu le Vision Pro, j'ai tellement pensé à toi et à ce que vous faites. Est-ce que vous avez commencé à vous amuser avec ça?
Absolument. Je l'ai testé perso, le Vision Pro, pour commencer à voir un peu c'est quoi les features fondamentaux qui pourraient nous aider. Je pense que la résolution, la mécanique d'interaction avec les digital assets là-dessus, c'est assez fascinant. Je pense qu'ils sont extrêmement bien placés pour dominer tout ce qui est réalité mixte. Après, c'est quand même un langage narratif différent quand on parle de location-based VR versus la réalité mixte parce qu'il faut traiter en même temps le réel et le virtuel. Et au point de vue, nous, de l'expérience qu'on peut faire vivre à nos gens, on trouve qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à explorer dans le 100% virtuel. Ouais. Donc, ça va être un autre outil qui va nous amener à développer un autre langage narratif, expérientiel, et on est très, très, très intrigué par les possibilités.
Alors, je te ramène au South by Southwest. Mis à part ta conférence, évidemment, je sais que tu es curieux. De toute façon, on te sollicite de partout pour parler d'intelligence artificielle, particulièrement dans le divertissement, mais aussi dans d'autres usages. Toi, qu'est-ce que tu ressors de la discussion autour de l'IA
En
pendant
fait,
le South by Southwest?
c'était surtout pour ça que je suis allé là. Bien sûr, pour le panel, bien sûr, pour parler d'expériences immersives, mais le bot, tu sens qu'il y a quelque chose de spécial cette année à South By. C'est tous les panels, toutes les conférences auraient pu juste s'intituler l'IA au service de la créativité ou l'IA qui met en danger la créativité, dépendamment de quelle partie du spectre tu te situes dans ton niveau d'angoisse là. Donc moi vraiment, j'ai tiré énormément d'apprentissage de mes conversations de couloir, que ce soit au petit déjeuner à l'hôtel, que ce soit lors du lunch, que ce soit dans les cocktails, et surtout les plus intéressants, c'était les after hours. C'était là que ça se passait, où les gens sortaient vraiment ce qu'ils avaient dans le cœur, et c'est là que tu avais les conversations les plus intéressantes, les plus profondes. Et ça m'a vraiment permis de saisir un petit peu le zeitgeist qu'il y a au niveau mondial. Dans cette catégorie de personnes qui sont à l'intersection de la technologie et la créativité.
Et tu
Et
les sens
évidemment,
angoissés, ces gens-là?
alors, je pense qu'on a les deux, hein. On a vraiment, et je pense que c'est la même chose, toi, tu es bien placé pour le savoir, je pense qu'à chaque grande disruption technologique, il y a un impact sur la créativité et plus que ça, il y a forcément les deux camps qui se cristallisent, ceux les techno-optimistes et les pessimistes, et t'as les deux. Et je pense que c'est un dialogue qui arrive à chaque fois. Et on a effectivement dans cette édition de South By la même chose. Et tu as donc les gens qui voient que l'IA peut commencer à améliorer la capacité de créer plus et mieux et plus vite. Et t'en as qui sont campés dans la question de ça va disloquer complètement, ça va changer des métiers complètement, ça va rendre des humains caduques en fait. Et c'est cette angoisse, dépendamment comment toi tu considères qu'est-ce qui est de l'art qui dirige un petit peu le niveau d'angoisse à qui je parlais.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'entre aujourd'hui et le moment où peut-être l'IA viendra remplacer l'humain, les gens d'aujourd'hui qui ne sont pas intéressés par l'intelligence artificielle, ces gens-là vont probablement être remplacés par des gens qui connaissent et utilisent l'intelligence artificielle. Elle est là, la nuance.
100%. On dit souvent que c'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, c'est un humain qui utilise l'IA qui va le remplacer. Et je t'avoue que ça se retrouve aussi dans les conversations que j'ai eues là-bas. C'est-à-dire que rapidement, tu te rends compte que ceux qui ont des attitudes les plus campées, les plus opposées à l'IA, sont en fait les gens qui n'ont jamais utilisé l'IA. Et tu te dis, mais c'est quand même bizarre, vous êtes dans le métier de créatif, dans la culture, dans les arts. Et vous n'avez même pas voulu voir c'est quoi cette patente-là comme outil. Est-ce que ça vraiment ça vous aide? Est-ce qu'il y a des limites? Parce que moi, j'utilise l'IA tous les jours, plusieurs heures, et du texte-to-texte, et du texte-to-image, et du vidéo. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de promesses et de potentiel aujourd'hui, mais il y a énormément de barrières encore. Et crois-moi, l'humain n'est pas prêt de disparaître, surtout quand on parle de créativité. Puis ça m'amène à une discussion vraiment fantastique que j'ai eue avec une directrice artistique. D'un projet immersif très cutting edge qui s'appelle Dana Ware, qui était Chief Creative Officer de The Void. Certains de ton audience pourraient connaître ça, The Void. Et quand on parle de direction artistique, vraiment cutting edge la technologie, tu n'as pas mieux que ça. Mais cette dame me parlait de son parcours dans les 20 dernières années, comme quoi elle a été une de ses dernières cohortes à apprendre le développement photographique chimique, tu vois, dans son école. Et elle se dit, mais si j'étais restée camper là-dessus que non, l'art, c'est ça, c'est juste cette technique, elle aurait jamais pu évoluer. Et elle s'est transformée maintes fois dans sa carrière d'artiste et de directrice artistique. Et c'est ce genre d'attitude-là, je pense que les artistes qui auront cette attitude-là vont gagner au final. Et la créativité humaine, et ne pas confondre avec les artistes eux-mêmes, la créativité humaine, moi, je pense qu'on est sur le point d'une renaissance et d'une explosion cambrienne de la créativité humaine. Moi, c'est ça mon point de vue. Je suis en train de le constater aussi sur le terrain.
Ben oui, parce que là, on possède encore plus d'outils qu'on possédait auparavant, ce qui peut nous libérer de certains soucis et nous permettre d'aller plus loin dans la
Complètement.
création. Quand tu ressors de là, que tu reviens à Montréal dans tes activités, Alexandre, ce que tu as appris, les réflexions que tu as eues, les discussions que tu as eues, t'en tires quoi pour les gens qui sont dans le domaine ici?
Écoute, j'ai plusieurs niveaux de lecture. Tu sais, j'ai les gens, j'ai, comme tu dis, très, très haut niveau, la créativité humaine. Ensuite, j'ai et de plus petit niveau, c'est nos artistes québécois. Et puis, à travers tous ces niveaux de lecture, j'ai une perspective différente. Je t'avoue que moi, je suis aussi, le chapeau que je portais à South by Southwest, c'était aussi celui de coprésident du conseil d'administration de Entertain AI. Et peut-être que tu sais ce qu'on fait, mais on essaie d'être une voix qui rassemble, qui est positive, qui montre les opportunités au milieu créatif de l'utilisation de ces nouveaux outils-là. Et on essaie d'agir un peu comme contrepoids des voix très pessimistes et très défensives sur la question de l'IA. En ce moment, à Ottawa, avec la loi C-27 que tu suis sûrement, c'est surtout des associations qui sont dans la protection des métiers traditionnellement. Et je pense que c'est une erreur parce que peut-être même si on est gagnant à très court terme, à moyen terme et certainement à long terme, on va en fait nous pénaliser beaucoup plus. Si on estime qu'on est plutôt dans le scénario où tout c'est un changement de paradigme que ça amène ces outils-là, il faut accompagner et accélérer la transformation des métiers pour que nos artistes d'aujourd'hui restent pertinents dans le milieu créatif de demain. Et c'est ça un peu la voie qu'on essaie de porter. Donc, si je reviens à ta question, avec quoi je reviens au Québec de ça, je t'avoue que je reviens en fait un peu plus pessimiste. J'étais parti de manière très optimiste en disant non, on a des experts québécois inégalés, on a des talents créatifs, artistiques inégalés au Québec, on doit dominer ce nouveau défi. Et quand je vois le niveau d'innovation, d'ouverture d'esprit, de tests, de prototypage qui se fait en dehors du Québec, ça m'inquiète. Parce que je me dis, et quand je regarde aussi, j'ai fait un deep dive sur vraiment aussi la nature de l'écosystème technocréatif du Québec, on est malheureusement, ça a été une bonne stratégie pendant des décennies, mais on a bâti un écosystème qui est en attente de commandes des États-Unis. Et c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans le jeu vidéo. On a bien sûr un gros studio de jeux vidéo, Behaviour. On a quand même pas mal d'indépendants, mais malgré tout, on est à la merci des commandes qui viennent ou qui éventuellement ne viendront plus de l'étranger. Et donc, ça a augmenté en fait mon sentiment d'urgence pour changer un peu notre mindset et pour se doter d'outils pour prototyper. On n'a pas des modèles fondationnels qui sont faits au Québec. Ça, c'est sûr, on a déjà manqué le bateau pour toutes sortes de raisons. On n'a peut-être pas besoin de les faire. Mais on n'a pas d'outils non plus créatifs que je vois sortir qui me fascinent. Les Runway, les Stable Diffusion, les Créa, les Pika, tout ce que tu peux imaginer, tous les trucs fun avec qui on teste. Il n'y en a pas un qui est fait au Québec. Puis je sais, je connais l'état des startups au Québec. Il n'y en a pas vraiment qui travaillent sur des trucs vraiment cutting edge là-dessus. Ça, c'est de deux. Troisièmement, je te dirais que même nos artistes, ceux qui sont les usagers de ces nouveaux outils-là, on a beau dire qu'on est fort au Québec, honnêtement, on n'est pas plus fort qu'ailleurs. Et je pense qu'en ce moment, je vois des choses plus encourageantes qui sortent en Europe puis aux États-Unis. Beaucoup plus qu'au Québec. Et ça, c'est un autre danger. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas peur pour le Québec à long terme. Je n'ai pas peur pour le court terme. J'ai très peur pour le moyen terme. Parce qu'il y a un potentiel de dislocation et de disruption des métiers majeurs. Puis ça fait quoi? Je te donne un exemple très concret. Tu sais, pense à faire un clip pour une publicité pour une voiture. Là, traditionnellement, tu dois engager une agence de créa, une agence de prod, tu dois identifier tes sites pour le shooting, tu dois louer la fameuse voiture. Tu as toutes sortes, une ribambelle de personnes qui viennent pour faire ce clip-là. Ça prend des mois et ça coûte des centaines de milliers de dollars. OK? Et maintenant, de quoi ça a l'air le Québec et tous ces métiers que je viens de mentionner? Quand tu n'as plus besoin de louer un site pour du tournage, tu n'as plus besoin de caméra, tu n'as plus besoin d'engager des caméramans, plus besoin de monteurs, pas besoin de tout ça. C'est fait pour 5% du coût original. De quoi ça a l'air? Et le mandat qui ne va pas venir du Québec, parce qu'on n'a pas des centres de décision au Québec par rapport à ça, il va aller où? Il ne va pas aller au Québec. Et donc, c'est ça qui m'inquiète dans le moyen terme. Et c'est ce qu'on essaie d'un peu de faire un wake-up call à tout le monde au Québec, et des ministres, et jusqu'aux artistes. Sur le plancher, dire il faut qu'on se réveille parce que ça va nous taper dans le visage et on va se dire mais ça sort de où tout ça?
C'est tellement drôle parce que là, tu es en train de faire un clin d'œil à une entrevue que j'ai faite il y a quelques semaines avec Pinkanova à Lyon, en France, qui justement maintenant est en train de travailler sur l'art de faire de la grosse production à l'aide
Ouais.
des IA, exactement ça, à 5% du budget. Mais ce que j'entends aussi au niveau du divertissement et de l'art, c'est qu'on est en attente de voir un nouveau Robert Lepage, nouvelle génération, qui va être capable de catalyser cette forme d'utilisation de l'IA. Et pour le
Si.
moment, il n'y en a pas là.
T'as fait raison, et c'est le moment d'essayer de le faire sortir du Québec, ce Robert Lepage, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits, d'autres écosystèmes qui se travaillent actuellement et qui sont vraiment des pros pour tous ces nouveaux outils-là. Et qu'on aime ou pas l'art, ce qui est généré par ces outils-là, ça reste quand même un output créatif. Et que on va pas avoir de débat philosophique encore entre ce qui est du vrai art ou du faux art, là. Je pense qu'on a compris où est-ce que
Ouais.
ça.
Puis de toute façon, moi, je te dirais, l'art de la requête, dès le départ, c'est déjà quelque chose. Autre question que je voulais aborder avec toi, puis on va terminer là-dessus, c'est le fait que j'ai vu une publication sur ton compte LinkedIn qui était un appel aux créatifs, aux gens qui s'intéressaient aux nouvelles façons de créer. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'est ça exactement, cet appel-là.
Ben justement, c'est pour faire le lien avec ce que je disais un peu tantôt, mon plaidoyer justement pour que le Québec sorte un petit peu sorte les meilleurs créatifs dans cette nouvelle ère de l'IA. C'était un peu pour ça que je l'ai fait. C'est un appel au talent, un appel pour savoir c'est qui les plus innovants au niveau de la créativité IA au Québec. Parce que je vois des agences qui sont natives de l'IA émerger en Europe, en France. J'en vois du côté de la côte est américaine, côté côte ouest. Et il faut qu'on ait l'équivalent au Québec aussi. Et donc, c'est aussi cet appel-là pour identifier les talents entre nous et échanger et se mettre à niveau et se fasciner les uns les autres avec les tests qu'on fait tous dans notre côté, dans les cuisines, et vraiment upskill et level up tout le monde un petit peu. Et donc, on va sûrement le faire au sein de EntertainAI, où je veux qu'on les identifie, je veux qu'on leur donne des chances de rayonner au Québec et bien sûr à l'international, parce que je pense que c'est la seule façon dont on pourra reprendre notre place dans le peloton de tête dans tout ce qui est techno-créativité au Québec.
Et est-ce que ton appel est aussi lancé à ces Québécois il y en a quelques-uns, qui travaillent chez les géants de l'IA présentement, mais à l'extérieur du Québec?
Absolument. Parce qu'on a la chance d'avoir ces outils qui mettent tellement de puissance dans les mains d'individus. Et donc, ce n'est pas parce que tu travailles dans une grosse compagnie technologique à l'étranger que toi, comme passionné de la créativité, tu ne veux pas aussi développer cet aspect-là de ton travail, de ton temps. Et je pense qu'on peut accueillir tous ces gens-là au sein de cet appel au talent de EntertainAI.
Alexandre Teodorescu, merci vraiment pour être débarqué dans mon carnet pour partager ces activités que tu as eues, puis aussi cette réflexion avec laquelle tu reviens ici. Je rappelle que ben, tu le disais, co-président d'EntertainAI, mais aussi vice-président développement, stratégie et innovation chez les Sept Doigts.
Oui,
Merci encore d'être
non.
passé.
Merci beaucoup.